Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de Vivante Église. C'est une figure de l'Église en Afrique, connue pour son combat sans relâche pour la paix, dans un pays ravagé depuis 2013 par une guerre civile. Le cardinal Dieudonné Zapalinga. Bonjour, Éminence.
Bonjour.
Alors, vous êtes archevêque de Bangui, en Centrafrique. Vous avez publié en 2021 aux éditions Mediapole un livre intitulé « Je suis venu vous apporter la paix », écrit avec la journaliste Laurence D. Joyot. Dans ce livre autobiographique, on peut découvrir un pasteur de l'Église engagé aujourd'hui. Vous donnez votre vie pour votre pays. Vous donnez votre vie pour ces brebis que Dieu vous a confiées dans votre ministère de prêtre, de prophète et de roi, homme de paix, homme de réconciliation et homme de prière. Merci de visiter nos studios, de rencontrer aussi les auditeurs de nos radios chrétiennes et en particulier dans cette ville rose, la ville de Toulouse. Vous êtes issu d'une famille modeste, cinquième d'une fratrie de 14 enfants. Vous découvrez cette foi chrétienne auprès d'un prêtre et j'aimerais introduire ces quelques minutes de ce Vivante Église avec ce prêtre spiritain qui se prénomme le Père Léon. Ce Père Léon a été, je le crois, important pour vous.
Oui, la figure du Père Léon est une grande figure pour moi, pour la plus simple raison que le Seigneur nous donne souvent de rencontrer des témoins et des témoins vivants. Ce prêtre est parti de son pays, Pays-Bas, Hollande, pour venir jusqu'en République centrafricaine comme missionnaire et il a osé, puisque je suis issu d'une famille pauvre, venir dans des quartiers pauvres, pour ne pas dire à la périphérie. Et il venait là, pas seulement de passage comme touriste, il venait là parce qu'il y avait des êtres humains. Il rencontrait nous, les petits, pour jouer avec nous, faire la catéchèse. C'est cette descente-là qui m'a beaucoup marqué. Quitter son pays, quitter aussi sa stature, et venir vers les petits pour leur parler de Dieu, pour les inviter à découvrir qui est Dieu, qui est le Christ, pour cheminer avec. Moi, cette figure m'a marqué. Voilà pourquoi très vite, j'avais dit à mes parents, « Moi, je veux devenir comme ce prêtre-là. » Parce que je l'ai vu, il a touché du doigt la pauvreté, il a touché du doigt la misère, et moi, je veux aussi m'engager pour aider à soulager la misère.
Alors on peut entendre, votre éminence, l'importance aussi du Père Léon dans cette stature aussi de témoin.
Oui.
Il vous a inspiré dans votre vocation?
Il m'a inspiré dans ma vocation parce que moi, en rentrant au petit séminaire, je voulais devenir prêtre. Et quand, au moment de faire le choix, j'ai demandé, mais qui est-ce le Père Léon? Il est de quelle congrégation? On m'a dit, les spiritains. Vous allez me former, m'informer, pour lire l'histoire des spiritains. J'ai vu que le premier fondateur, en 1703, a fondé la Congrégation du Saint-Esprit pour s'occuper des pauvres écoliers. Et j'ai vu que Liberman, en 1852, s'est engagé pour les pauvres noirs. Donc, il y a vraiment une corrélation. Il y a vraiment une vie vécue de charisme de la part de ces missionnaires. Voilà pourquoi je dis, je m'engage, je veux faire comme eux, je vais les imiter. Au fait, c'est le Christ que je veux imiter.
Au fond, vous répondez à l'appel de Dieu. C'est un chemin étroit, la porte est étroite. C'est le chemin vers la porte du ciel, cette vie éternelle. C'est quoi être un bon pasteur aujourd'hui? Permettez-moi de vous poser, de vous interroger.
Le pape François parle de celui qui sent l'odeur des brebis. Ce n'est pas de l'euphémisme, ni aussi se gargariser des mots. C'est celui qui est proche. Nous, que célébrons-nous à Noël? L'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, il est avec nous. Et si vous regardez Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, il dit, allez de par le monde entier, baptisez les gens, apprenez-leur à garder mes commandements. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. La permanence, la présence. Et cette présence-là que le pasteur doit incarner en étant au nom témoin du Christ auprès de ses fidèles, celui qui peut les rassurer, c'est celui qui peut les accompagner, celui qui peut les écouter, celui qui engagera les dialogues, celui qui portera les faibles sur ses épaules, celui qui sera à mesure d'encourager, celui qui sera à côté pour stimuler afin que le réconfort revienne, pour que la marche des brebis, parce que chaque brebis a sa manière de marcher, et le pasteur doit veiller à la diversité des sensibilités pour ramener tout le monde au bercail, on dira, à l'église.
Alors on entend bien que le pasteur est appelé à prendre soin de ses brebis quand on vous écoute, votre éminence, prendre soin de les écouter, de les regarder, de les rencontrer aussi dans cette périphérie, des plus pauvres, parfois des plus démunis, des plus meurtris, des plus blessés, ces cœurs qui ont besoin au fond d'être restaurés, réparés.
Le pape François ne fait pas que seulement en parler, je suis témoin de son engagement.
Oui, et on va en parler.
Il est venu.
Et on va en parler, oui. Il est venu au milieu de la guerre, fin 2015.
Voilà.
Oui.
Le chargé de sécurité nous confiait en disant il n'a jamais organisé un voyage pour un pape en temps de guerre. Mais comme c'est le responsable, c'est le pasteur qui a demandé, le pape qui a demandé, il va l'organiser. Et vous pouvez imaginer. Donc ça veut dire que le pape est venu à la périphérie. Alors qu'on parle de la miséricorde, voilà des peuples en guerre, en conflit, qui sont là, dos à dos, et qui ne regardent pas dans la même direction. Il vient maintenant nous dire, j'ouvre la porte de la miséricorde, la porte finalement de nos cœurs, qui étaient fermés, repliés, gorgés de haine, de vengeance. Eh bien, pour nous dire, non, laissez la paix entrer, laissez le pardon entrer, laissez la réconciliation entrer, tendez la main, allez vers les autres. Et lui-même l'a montré en allant chez les protestants, en allant chez les musulmans et finalement chez les catholiques pour nous dire, il est possible de nous retrouver. La petite histoire, l'imam, le pasteur et moi, on s'était déjà retrouvés. Donc le pape vient nous conforter dans cette démarche-là de vivre ensemble, vient nous conforter dans cette démarche-là de l'interreligieux, qui ne doit pas nous faire peur, mais bien au contraire, doit nous apprendre à estimer, à respecter, à engager le véritable dialogue pour créer un monde nouveau.
Donc, instaurer ce dialogue, donc instaurer aussi la rencontre, l'écoute aussi. On reviendra aussi sur ce trio que vous formez, l'imam qui est décédé depuis, le pasteur et vous-même, avec la création de cette plateforme de paix interreligieuse. Comment avez-vous vécu ce passage du pape François en pleine guerre, en un déplacement, au fond, presque un miracle? Comment l'avez-vous vécu, éminence?
Nous l'avons vécu.
C'était le cadeau?
Comme un cadeau venu du ciel, cadeau venu du Vatican, par cette présence-là. Et je peux vous faire une confession en vous disant, quand le pape est venu, c'est comme si le monde s'était arrêté pour nous. Quand le pape est venu, c'est comme si tout subitement, nous avons oublié qu'on était en guerre et qu'on pouvait regarder en direction. Quand le pape est venu, on a appris à regarder l'autre autrement. La petite histoire, il a osé aller dans l'enclave qu'on appelle kilomètre 5, où il y avait beaucoup de musulmans. Les gens qui étaient seulement avec un regard humain disaient, c'est pas possible, il y a beaucoup d'armes et autres. Mais c'est un acte de foi que pose cet homme en lien avec le message qu'il annonce. Eh bien, en sortant de cette enclave, les musulmans, sans se poser des questions, sont sortis en courant avec les motos pour suivre le pape et venir à la grande célébration qu'il devait le faire. Eh bien, pour un imam me disait, le pape n'est pas venu pour vous les chrétiens, il est venu pour nous les musulmans parce qu'il nous a libérés. Il y a quelques jours, on ne pouvait pas sortir. Lui, il vient, il nous fait sortir. Moi, depuis ce jour, je lis le livre de l'Exode autrement. En disant, la sortie d'Égypte, c'est pas une histoire d'hier, c'est une histoire d'aujourd'hui, et je l'ai vécu, mon peuple l'a vécu, à la suite de l'homme de Dieu qui est venu à la périphérie et qui nous a annoncé qu'on pouvait sortir et regarder l'avenir autrement.
Quels ont été les fruits, très concrètement, après ce passage du pape François, pour les frères musulmans, protestants et puis catholiques?
Pendant 6 mois, par un mystère qu'on ne saura expliquer, les gens ne tiraient plus des coups de fusil. Les gens rentraient maintenant dans le quartier et ils sortaient. Avant, quand on voyait un musulman, on le pourchassait. Ou quand un chrétien rentre dans le quartier, on le pourchassait. Et maintenant, tout à coup, l'homme de Dieu est passé. On a l'impression qu'il nous a réconciliés avec les frères. Les messages qu'il a dit, déposez les instruments de mort. Les fusils sont les instruments de mort. Il faut les déposer. Prenez l'instrument de justice. Prenez l'instrument d'amour. Prenez l'instrument de réconciliation, de pardon. Nous avons eu un ouf, un soulagement, un apaisement. Et on s'est regardé en face. Si l'homme de Dieu est venu au loin, est-ce qu'on ne pourrait pas? Et un des fruits, c'est les rencontres qu'on a eues. Parce que je suis allé voir les musulmans, nous avons marché pour la paix. Et ça, c'est important. Les jeunes musulmans et jeunes chrétiens se sont retrouvés pour travailler et réfléchir, proposer les chemins de sortie. Les femmes musulmanes, femmes chrétiennes sont retrouvées pour chercher aussi les voies et moyens de sortie. Donc ça a été un déclic énorme. Et pour nous, les chrétiens, eh bien, l'incarnation n'est plus une histoire théorique. Quand on vient et qu'on rentre dans un pays et qu'on annonce un message et qu'on indique la voie à suivre, je pense que Jésus n'a pas fait autre chose que venir vers nous, nous dire que l'art de rédemption, le salut, il vient nous l'apporter. Et moi, je l'ai senti, je l'ai vécu, ces fruits-là de réconciliation, de pardon, de vivre ensemble et surtout de dialogue. Aujourd'hui, quand on parle de synode, nous sommes en marche vers cette réconciliation.
Alors on peut entendre, au fond, c'est le passage de Dieu dans ce pays. C'est le miracle de Dieu qui s'est opéré avec ce déplacement du pape François en 2015, fin 2015, en pleine guerre, pour aussi ouvrir ce jubilé de la miséricorde et des fruits. Vous nous les avez témoignés. Merci infiniment, votre éminence. Vous avez créé cette plateforme de paix interreligieuse qui travaille pour désarmer les milices avec... un frère pasteur et un frère imam qui est décédé depuis. Vous étiez surnommé les trois saints.
Là, c'est le journal Le Monde qui est venu en République centrafricaine. Voyant la tension, voyant les conflits et voyant aussi comment les gens, par la parole ou physiquement, adressaient des paroles ou des gestes de violence, eh bien, les journalistes reviennent vers nous. Nous, on continue à dire, il est possible de vivre ensemble. Et nous devons rester unis. Et nous devons parler de pardon. Et nous devons parler de réconciliation. Et nous devons continuer à aller dans une direction. Et ils ont dit, mais il n'y a que les héros comme vous. Et il a dit, mais ils sont comme des saints. Et ils ont dit, les trois saints de Bangui, parce que les autres parlent de la violence, mais eux, ils parlent de la paix. Donc, il faut être dans les gens du ciel pour dire ça. Ben oui, nous sommes les gens qui recevons notre message du ciel. Ça veut dire de Dieu lui-même. Religion révélée, religion de parole. Nous avons là le secret pour pouvoir aussi dire à temps et à contre-temps, le chemin pris n'est pas le bon. Et le bon chemin, c'est le chemin de Dieu qui rassemble et qui unit. C'est cela aussi.
Alors, au-delà même de l'Afrique, votre éminence, l'humanité traverse une crise, des crises, pandémie, guerre, le climat qui se dégrade. Les personnes sont parfois aussi dans la crainte, dans la peur. Comment porter un message d'espérance en vue de cette éternité au fond? Tout être humain est fait pour le ciel et cette porte du ciel qui nous est présentée. Alors en temps difficile, où le monde est en feu quelque part, la détresse du monde, la détresse des cœurs.
Eh bien, je pourrais vous dire, nous avons trois vertus théologales. La foi, la charité et l'espérance. L'espérance est une des vertus et nous ne devons pas oublier. Le chrétien est celui-là. Même s'il y a un fond dans le verre, il dit il y a encore quelque chose. Au moment où les gens ont baissé les bras, ils ne croient plus, ils continuent à croire. Mais ce que je viens de vous le dire, les autres ne croyaient plus à la réconciliation. Ne croyaient plus au vivre ensemble. Mais nous, on continue à croire. Parce que Dieu veut se servir de ses témoins pour rallumer la flamme de l'espoir. Les situations difficiles actuellement nous invitent aussi à revenir vers Dieu. Seigneur, que veux-tu pour notre monde? Le monde comme création, le monde comme humanité que tu as destiné pour vivre, accueillir des hommes et des femmes, que pouvons-nous faire pour qu'il reste toujours le lieu où les hommes peuvent se retrouver? Nous voyons les conflits, les guerres, les violences, et parfois on a l'impression d'être découragé, on a l'impression d'être impuissant. Et le Seigneur vient encore pour nous demander de déposer les armes. Ce n'est pas l'unique solution, ne sera pas dans les armes. Je lance seulement cet appel en disant, regardons l'histoire, et elle est là pour nous instruire. Même quand on a eu les pires guerres, on finit toujours par signer un accord de paix. Mais jusqu'à quand allons-nous sacrifier des vies humaines? Est-ce qu'on ne pourrait pas entendre la voix de Dieu en disant, tout homme est créé à l'image de Dieu. Je suis invité à respecter, à accueillir la différence. Je suis invité à négocier, à faire des sacrifices pour le bien de l'humanité. Eh bien, je pense que le jour où nous allons laisser un peu de notre orgueil, notre super puissance, on découvrira notre chemin parce que Dieu, il s'est donné à nous en nous révélant à travers l'humilité.
Votre Éminence, je vous invite à vous retrouver dans quelques minutes, le temps d'une plage musicale. À tout de suite. Restez avec nous. Merci.
Ave, et paries filium, et vocabis nomen. Oh.
Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivante Église avec pour intervenant, j'ai presque envie de dire témoin, c'est un cardinal, votre éminence Dieudonné Zappalinga, merci de votre présence ici, une présence aussi dans la Ville Rose à Toulouse. Je rappelle que vous êtes archevêque de Bangui en Centrafrique et que vous avez écrit un livre autobiographique, Je suis venue apporter la paix, qui était paru aux éditions Mediapol en 2021. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire et de vous raconter dans cet ouvrage, Éminence ?
La petite histoire.
Vous avez beaucoup de petites histoires. Nous aimons les petites histoires.
Au départ, je ne voulais pas écrire. Mais ce sont les gens qui ont dit, avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu nous racontes, il est important que tu penses à des générations à venir pour mettre par écrit. Et au début, je disais, mais ma charge de pasteur ne me permet pas. Et bien, c'est ainsi que les amis de Saint-Égide, je avais dit, on va vous trouver quelqu'un. Mais comme la personne voudrait que je puisse destiner un mois entièrement pour consacrer seulement à la découverte, pour écrit le livre, j'ai trouvé que j'avais plus autre chose à faire. C'est ainsi que Saint Paul Média est venu en disant, on trouvera un journaliste qui sera disponible avec vous pour aider à lire. C'est comme ça que ça a été écrit, et parce que les gens qui m'ont vu, les gens qui m'ont rencontré, ont pensé que ce qu'on dit ou ce qu'on vit ou ce qu'on propose pouvait aider aussi d'autres personnes, d'autres groupes. Parfois, on est confronté à de l'angoisse. Parfois, on est au pied du mur. Parfois, on est dans l'obscurité. On ne voit pas l'espérance. Le petit livre vient comme, on va dire, des petits gestes d'espérance ou bien encore des paroles qu'on sème pour élever l'âme, élever le cœur à découvrir ce Dieu. Et au cœur de la crise, Dieu continue à nous parler. N'oublions pas, sur la croix, Dieu nous a parlé en Jésus-Christ, qui les bras ouverts dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », dans Luc chapitre 23. Et je crois que nous ne pouvons pas effacer la souffrance, effacer les conflits, effacer les moments difficiles. Nous devons les affronter, mais les affronter avec les yeux du Fils de Dieu, c'est-à-dire avec lui. Et quand il est avec nous, eh bien, il nous changera. Il nous aidera à voir le bon côté. Donc, j'écris ce livre-là pour dire que tout n'est pas fini, qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir, je le puise dans son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu semer cet espoir et qui me dit, je peux prendre le relais. Les témoins, ce n'est pas une histoire d'hier ou de demain, c'est aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a besoin de témoins.
Aujourd'hui, on a besoin de témoins.
Alors, est-ce que vous avez été parfois tenté au milieu de la crise, au milieu de la guerre, de vous éloigner du Christ ? Vous parlez du Christ en croix, le Christ dans la passion, le Christ qui s'est offert pour l'humanité, pour chacune des créatures. Avez-vous été tenté ?
Dans ces moments les plus difficiles, si on ne met pas la prière au cœur de notre vie, eh bien la tentation arrivera. Même le Fils de Dieu a été tenté, alors qu'il venait juste d'être baptisé, alors qu'on l'a présenté comme le Fils bien-aimé, il a été tenté. Il est sorti vainqueur parce qu'il a gardé cette communion, cette intimité avec son Père. Tout croyant est appelé à garder, de par la prière, ce va et vient avec l'unique Dieu. C'est comme ça que tu auras les yeux du Fils de Dieu pour interpréter, analyser, comprendre, proposer, décider des choses, même au cœur des moments les plus difficiles. Oui, on peut voir ce qui arrive et on voit aussi l'absurdité. Cette absurdité révèle quelque part la limite de l'homme, les blessures de l'homme. Et est-ce que cette absurdité doit me conduire au pessimisme ? Je dis non. L'absurdité qui me révèle la limite de l'homme m'invite plutôt à dire que un autre homme est possible. Et l'autre homme qui est possible, eh bien, c'est Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. et qui m'a montré un autre chemin. Voilà pourquoi ce va-et-vient avec lui est important. Sinon, on sombre dans la dépression. Sinon, on pense que on est déjà blasé. Il n'y a plus rien à faire. Il faut laisser. Et on devient passif, amorphe. Le chrétien, il est un vivant parce que le Christ est ressuscité. Et donc, il y a des énergies encore que le Christ te donne pour que tu puisses changer ce monde. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que fera. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes confrontés, si les chrétiens se lèvent comme lumière, se lèvent comme sel, eh bien, ils vont apporter leur contribution. Il n'en faut pas beaucoup, hein, petit sel, et après, on aura le goût. Et j'espère, et je prie, pour que les chrétiens cultivent cette intimité, qu'ils puissent faire des propositions en lien avec la parole de Dieu, en lien avec la tradition, pour changer le visage de notre monde.
Alors, de votre bouche, votre éminence, vous revenez, et c'est beau, au combien de vous entendre parler aussi, de prendre soin de ce cœur qui est appelé au cœur à cœur avec le Seigneur. Au fond, vous nous rappelez, vous rappelez aux auditeurs qui vous écoutent, certains vous découvrent peut-être à l'instant, au combien, pour un chrétien, pour rester fidèle et debout peut-être dans le combat, dans ses pauvretés, au combien la prière est capitale. Peut y avoir de mission s'il n'y a pas une vie d'intimité, de prière.
C'est ça? Oui, vous ne pouvez pas avoir une mission.
Parce qu'il y a beaucoup d'actions menées aujourd'hui. Hein.
Alors, vous savez, quand vous sortez dans la rue, vous voyez les véhicules. Un véhicule qui n'a plus de carburant s'arrête. Le chrétien a besoin de son carburant. La prière, tous les jours, faites votre plein. Allez vers le Seigneur. Parfois, vous n'avez rien à lui dire, mais il a quelque chose à vous dire. Restez en silence comme curé d'Ars. Là, avisez-le, il va vous aviser aussi. Restez là, dans l'émerveillement. Rejoignez les autres et c'est ainsi que vous allez cultiver cette intimité, cette proximité. C'est ainsi que vous allez voir les choses autrement, à la lumière, avec les yeux du Christ, pas comme les gens de ce monde, parce que je suis dans le monde sans être du monde.
Quels sont les saints qui vous ont inspiré? Vous venez de nommer le saint curé d'Ars, patron des prêtres du monde entier.
Curé d'Ars, grande figure, parce que lui, à travers la prière, il a su toucher les cœurs des gens de Ars. Il passait beaucoup de temps. On venait le chercher au bureau, il était dans l'église. C'était pour indiquer aux gens notre lieu. C'est là-bas dans l'église. Il faut aussi qu'on aille, qu'on conduise les gens dans l'église. Mais au fait, les conduire au Christ, c'est ça. Or, si le Christ, il s'écarte beaucoup du cœur de beaucoup de gens, on a l'impression que le diable gagne notre cœur. Et la division gagne notre cœur, la séparation gagne notre cœur. Réconcilions-nous avec le Seigneur. Nous avons des blessures, il saura les penser. Nous avons des difficultés, il saura nous aider à les assumer. Pas avec nos propres forces, mais avec sa force. Parce que lui, il a déjà vaincu ses difficultés. Il a déjà vaincu la mort et il te dit, tu es capable et tu peux aussi vaincre parce que dans ton sang, il a injecté le sang du vainqueur en disant que c'est possible, mais pas avec mes propres forces, avec lui. Je deviens plus fort.
Donc avec lui, tout est possible. C'est le grand miracle. Est-ce qu'on peut vous demander aujourd'hui, dans la situation en République Centrafrique, reste-t-elle toujours aussi complexe et aussi préoccupante, votre éminence?
La situation en République Centrafricaine, moi je regarde les choses avec les rétroviseurs. On a connu des moments les plus pires, catastrophiques, où je voyais les gens mourir comme des bêtes et autres. Aujourd'hui, il y a quand même un changement. On peut circuler dans la ville. Aujourd'hui, quand même, je vois des parents partir au champ et revenir. Je vois des jeunes aller faire des courses et revenir. Ça, je dois le regarder parce que le chrétien est celui aussi qui voit ce qui est bien, ce qui est positif, en disant que Dieu travaille aussi. Alors donc, je vois aussi ça. En même temps, je vois aussi qu'il y a des limites qui restent. Et ces limites-là, nous devons continuer à dénoncer, condamner, pour que les gens puissent se retrouver. Parce que quand vous êtes dans une ville, vous empêchez avec les armes, empêchez les gens, ou vous les à aller au champ, vous les racketter. Ça existe encore dans certains endroits, dans notre pays. Et moi, je me permets de me déplacer pour aller dans ces endroits. Voilà pourquoi ceux qui ont déjà entendu parler de Cardinal Zapalainga, je vais même dans au plus front, là où il y a les rebelles. Et je pars sans arme. Mon arme, c'est la présence de Dieu. Je dis toujours, il y a les anges qui vont m'accompagner, je n'ai pas d'escorte. Donc quand j'arrive, je suis à la merci. Je prends de gros risques parce que le Christ a pris le grand risque avant moi. Il a traversé parmi les soldats, parmi les foules hostiles. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Nous ne devons pas nous déjouer de notre mission. Nous devons aller jusqu'au bout. Donc voilà pourquoi tous ceux qui se disent chrétiens, dans les moments les plus difficiles, regardez, fixez vos yeux sur le Christ. Prenez, venez vers lui, laissez-le porter le joug ou les difficultés qui vous pèsent. D'ailleurs, pourquoi je parlais tout à l'heure, déposer dans la prière ce qui nous pèse, et c'est important.
Alors, cardinal Zapalainga, vous décrivez aussi, au fond, votre mission de pasteur. Un pasteur est sur le terrain, dans les moments terribles de crise, comme vous connaissez aussi en Centrafrique. Je rappelle que vous êtes archevêque à Bangui. Certains vous voient comme un héros, d'autres peuvent aussi vous considérer comme un saint ou un futur saint. Au fond, mais vous obéissez simplement à la parole de Dieu.
Je ne suis pas un héros, je ne suis pas un saint.
Pour certains, oui.
Je suis en chemin vers la sainteté. C'est le Christ qui a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est un appel que le Seigneur nous a lancé. Et chacun, à son niveau, entend cet appel-là et y répond. Si je me suis engagé à être prêtre, à être pasteur maintenant, eh bien, ce n'est pas pour que je puisse regarder mourir mes brebis. C'est pour que je puisse les sauver, c'est pour que je puisse les réconforter, pour que je puisse les protéger, les rassurer, les écouter, engager des dialogues avec ces brebis-là. Voilà pourquoi je me suis engagé, parce que le Christ lui-même, celui qui garde sa vie, n'est plus le disciple. Une vie donnée, c'est une vie qui s'inscrit à la suite du Christ. La petite histoire.
Encore une, allez-y.
À chaque fois que je pars dans les endroits les plus difficiles, je dis toujours aux gens, je pars à Jérusalem. Ça veut dire, je ne sais pas ce qui peut arriver. Le meilleur, le pire peut arriver, mais c'est ma mission. Je pars pour annoncer la paix, la justice, la réconciliation. Si je donne ma vie, c'est en lien avec la mission que le Christ m'a confiée. Donc, c'est important que nous puissions aussi avoir cela en tête en disant, on a entendu un appel. Eh bien, on a décidé d'y répondre. Autant le Christ a donné sa vie, suis-je prêt à donner ma vie?
Alors, dans votre parcours aussi, on revient un peu bien avant que vous soyez ordonné cardinal et évêque. Quand le nonce apostolique vient vous demander si vous pouviez devenir administrateur, à plusieurs reprises, vous refusez jusqu'au moment où vous allez donner une réponse positive. Pourquoi vous avez résisté
J'ai résisté parce que je pensais que humainement, ce n'était pas ma charge. Et que je voulais continuer comme responsable spirituel. Mais le nonce pensait que j'avais quelque chose à apporter pour cette église locale. Voilà pourquoi il est revenu à 3 reprises et je me suis posé la question. Et si le serviteur du Seigneur revenait vers moi pour insister, n'est-ce pas là aussi l'appel du Seigneur? J'ai laissé de côté la peur, l'hésitation, le doute. Je dis, je fais un pas dans la foi en accueillant. En disant oui, eh bien, je dis dans le livre que j'ai senti une libération de son côté. Et moi aussi, je dis, je suis prêt. Prêt au martyr, prêt au sacrifice, prêt au don de soi.
Prêt à donner votre vie pour les brebis. Vous n'avez pas peur, là,
n'ayez pas
quand
peur,
vous nous parlez.
Car
n'ayez
j'ai
pas
vaincu
peur,
le monde, tout nous à fait. Dit le Christ. J'ai vu des gens avec des fusils, j'ai vu des gens... J'ai connu aussi déjà beaucoup, mais à chaque fois, je dis, mon heure n'est pas encore arrivée.
Votre secret, c'est l'abandon, c'est cette vie de
non
prière.
Non seulement l'abandon, vous savez, oui. quand les rebelles, une petite histoire encore, quand les rebelles sont rentrés, un jour après, ils sont venus à l'archevêché. Et en venant à l'archevêché, eh bien, ils étaient bien armés avec les mitrailleuses et tout. Ils sont rentrés. J'ai seulement dit aux rebelles, venez ici dans le salon. Ils sont rentrés. Après, je leur ai dit, vous cherchez qui? Le responsable, c'est moi. Eh bien, je suis là pour annoncer la bonne nouvelle, parler de la paix, la réconciliation. Je ne veux pas que le sang coule. Je leur ai demandé, regardez, il y a un qui avait ce que je peux appeler les gris-gris. Moi, j'ai mis la main à la peau, j'ai sorti mon chapelet en lui disant, regarde, j'ai ici mon chapelet, ce chapelet-là. Entre ton gris-gris et le mien, c'est pas qu'est-ce qui est le plus fort. Hein. Je l'ai remué, j'ai mis dans ma peau, je leur ai dit de sortir. J'ai ouvert la porte pour sortir. Et bien, ils sont sortis, finalement, la Vierge Marie. Je dis toujours aux gens, ils avaient des armes, mon arme, c'est le chapelet. Les chasser avec le chapelet, l'ennemi, la Vierge, ceux qui doutent, ceux qui hésitent, goûtez et vous verrez.
Alors nous enregistrons aujourd'hui, nous célébrons la fête de Notre-Dame de Fatima, nous sommes le 13 mai et nous sommes dans ce temps, Votre Éminence, ce temps où nous venons de célébrer tout juste l'ascension de notre Seigneur qui nous conduira à la fin de la semaine à célébrer la fête de Pentecôte. Ouais, oui. Un mot aussi pour... les auditeurs, sur cette fête de Pentecôte.
La fête de Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui vient pour ouvrir une nouvelle porte, pour ne pas dire les horizons. Nous avons déjà fêté les 40 jours où le Seigneur est monté au ciel. Il nous donne de prendre responsabilité dans le quotidien, bâtir un monde nouveau. Mais nous avons besoin, on est fragile, de la force. Il sera avec nous par l'Esprit Saint. Il sera avec nous dans nos cœurs, dans nos mains, dans nos bouches, dans nos yeux, dans nos oreilles, dans nos nez, dans nos pieds, pour marcher. L'Esprit, toi qui n'arrives pas à marcher, l'Esprit veut te pousser, sors pour aller à la rencontre de tes frères, marche. Toi qui n'arrives pas à parler, donne de parler, le don de la parole. Toi qui n'arrives pas à écouter, fais silence, écoute quand même. Toi qui n'arrives pas à partager, ouvre ton cœur. Tends la main, partage. Toi qui n'arrives pas à aider, fais-le. Chacun aura son charisme si on s'y prépare. Eh bien, Pentecôte, pour moi, spiritain, c'est la descente du Saint-Esprit. Et c'est le jour de la création de notre première congrégation. C'est une grande fête chez nous. Et nous disons que nous recevons des charismes, pas pour nous, mais pour les autres. Jésus n'est pas venu que pour lui. Il est venu pour la rédemption de l'humanité. Voilà, c'est venu le moment où nous allons recevoir le Saint-Esprit. Et surtout, ne le cachons pas dans nos poches, ni dans nos petites maisons, ni dans nos cuisines, ni devant notre table. Laissons l'Esprit nous pousser au large. Ça veut dire vers les horizons nouveaux, il y aura des difficultés, il y aura des moments aussi durs, mais l'Esprit sera toujours avec nous. Si vous êtes convaincus, je vous prie de disposer votre cœur, vous allez voir cette grâce transformera non seulement votre cœur, votre vie, mais aussi celle de vos frères et sœurs, pour ne pas dire l'humanité entière.
Je vais vous demander, Votre Éminence, donc Cardinal Dieudonné Zappalinga, merci de votre passage dans nos studios et dans ce Vivante Église du jour, de donner une bénédiction en ces temps qui vont nous conduire à célébrer la fête de Pentecôte pour tous les auditeurs qui vous ont écouté. Et merci à vous.
À tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant daigne vous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Amen. Merci.